Chapitre 33.
T'as déjà vu des Indiens ?
Demande mon père à ma sœur. Les appels visio à trois sont devenus un rendez-vous hebdomadaire. On trouve un horaire qui convienne à chacun, en tenant compte du décalage, et on passe une heure à bavarder comme si nous étions réellement ensemble. Ma sœur répond par la négative. Les Indiens ne courent pas les rues. Il semble étonné. Je me demande comment ça se passe dans son imaginaire. Est-ce que les États-Unis ressemblent à un épisode de Dr. Quinn ?
Il faudra que je vienne, dit-il. Depuis le temps que j'en rêve.
Je l'ai toujours entendu en parler. Quand il était jeune avec sa bande de copains, il fantasmait une traversée des États-Unis en Harley-Davidson. Le film Easy Rider leur avait injecté un shoot de liberté. C'était hors d'atteinte, et il le savait sans doute. Mais quelle meilleure voie que la route 66 pour s'extraire de l'impasse de leur existence. C'était leur sujet de conversation préféré, avec les filles, quand ils se retrouvaient chaque jour. Pendant quelques heures, ils rêvaient d'évasion à dos de grosses cylindrées, puis ils rentraient chez eux à dos de Solex. Il a fini par passer le permis moto, mais n'a jamais franchi l'Atlantique. Pourtant, ça ne l'a jamais quitté, comme un projet inaccessible qu'on garde en plan B. Pendant sa période de chômage, il y a sérieusement songé. Mais il y avait fatalement quelque chose qui l'entravait, un fil à la patte qu'il n'arrivait pas à couper. Ses rêves ont toujours été plus libres que lui. Quand ma sœur a emménagé à Chicago, on était persuadés qu'il ne tarderait pas à lui rendre visite. Il n'y est jamais allé. C'est comme s'il voulait garder son rêve intact, ne pas l'abîmer. Conserver une voie de secours, au cas où.
Je t'ai déjà dit que tu venais quand tu voulais, papa.
Mais je sais pourquoi tu ne l'as pas fait.
Ah bon ? Et pourquoi ça ?
Parce que t'as peur de l'avion, répond-elle en riant.
Pas du tout,
se défend-il vivement. Je me bidonne avec ma sœur. Je suis persuadée que le même souvenir vient de s'implanter dans nos deux cartes mémoire. Adèle devait avoir 5 ans et elle était introuvable. Ma mère hurlait son prénom dans toutes les pièces de la maison. Mon père courait partout et moi j'étais pétrifiée. On a fini par être alertée par une petite voix, la sienne. Elle était bloquée tout en haut du prunier qui se trouvait au fond du jardin. C'était tout elle. Agir, puis réfléchir. Mon père n'a pas hésité une seconde. Il a enlacé le tronc, calé ses pieds sur les nœuds et grimpé pour rejoindre sa fille terrorisée. C'est là, à 4 mètres de hauteur, agrippé à une branche comme un koala, qu'il a découvert qu'il avait le vertige. Il a fallu des heures et une bonne dose de patience maternelle et un fourgon de pompiers pour qu'il retrouve la terre ferme. Mon père boude quelques secondes jusqu'à ce que Nolan, son petit-fils américain, passe une tête dans l'écran. Johanna, la femme d'Adèle, vient compléter le tableau familial. Charlie nous rejoint, comme chaque fois qu'il entend la voix de son cousin. Puis Gaëtan le suit. L'espace d'un moment, nous sommes tous réunis dans la même pièce. Le français et l'anglais se mêlent dans une cacophonie joyeuse. Les sourires se croisent. Le manque relâche sa morsure. On finit par se dire à bientôt, par se souhaiter le meilleur. Ma sœur lâche un « Je vous aime » que l'on saisit au vol et qu'on lui renvoie en silence. Dans la famille, elle est la seule à parler couramment l'amour. L'écran s'éteint, la pièce se vide. Mon père passe le bras autour de mes épaules, me serre un peu, pas trop. Faudrait pas qu'il soit surpris en flagrant délit de tendresse. Elle a grandi, la petite, fait-il. Mon sang se fige. Quelle petite, papa.
La petite, tu sais, Nolan, quel âge elle a maintenant?